Tous les ans, à la fin du mois d'août, se tient à Douarnenez, en Bretagne, un festival de films des minorités. Cette année, en 2015, un débat a été organisé par les sourds, sourdes et les intersexes pour dénoncer l'oppression médicale que subissent ces deux communautés. En effet, les personnes sourdes sont traversées par cette question au travers de l'implant cochléaire, presque systématiquement apposé à l'intérieur de la boîte crânienne des enfants sourds dès leur premier mois de vie. Les bébés intersexes, quant à eux, sont mutilés dès leur plus jeune âge pour leur assigner un sexe mâle ou femelle. Sans compter les innombrables heures que les uns et les autres devront passer en rééducation auprès du corps médical et paramédical durant toute leur enfance. Fabrice.
Je tiens tout d'abord à remercier le festival pour avoir organisé cette rencontre entre deux minorités, celle des sourds et celle des intersexes. C'est une première. Vous avez sur le plateau plusieurs témoins. Deux témoins intersexes, Vincent Guyot, qui est ici présent, et Maric. Vous avez à côté de Maric Marie et Olivier Chétrit, qui prépare une thèse d'anthropologie visuelle. Est-ce que, Olivier, tu peux nous faire une synthèse de l'histoire des sourds, quelque chose de très synthétique?
Olivier.
Au Moyen-Âge, quand on s'intéresse au code justinien, il y a différentes catégories de sourds, ça commence déjà. Ceux qui sont capables d'oraliser peuvent être citoyens, peuvent hériter. Après, on passe à l'abbé de l'épée, qui est plus dans une éducation en langue des signes, et pour leur apporter cette citoyenneté via l'écrit. Mais il y a de l'oral aussi derrière. Ensuite, on arrive au congrès de Milan, et l'abbé Tara va conclure ce congrès par « Viva la parola », c'est l'oralisation qui va être diffusée. On peut dire qu'à partir de là, on est dans un siècle noir où l'identité de la personne est vraiment dévalorisée. Malgré tout, il y a tout un mouvement associatif, une presse sourde, silencieuse, qui se construit en parallèle. Et très récemment, il y a une période qu'on appelle le réveil sourd, dans les années 70, et les chercheurs, les linguistes également, surtout aux États-Unis, d'abord aux États-Unis, se sont intéressés à la langue des signes américaine, la SL, et ont vu qu'il y avait une vraie structure, et c'est là que tout a bien commencé, recommencé pour la langue des signes. 2005, la loi sur le handicap. Et dans cette loi, il y a des catégories qui sont médicales. La langue des signes est inclue. C'est vraiment reconnu comme une langue, mais malheureusement dans une loi sur le handicap et pas dans la Constitution comme étant la loi d'une minorité. Et on s'est dit qu'on allait profiter de cette loi sur le handicap, mais malheureusement, c'est de plus en plus d'intégration, parce qu'avant, il y avait des établissements spécialisés avec beaucoup de sourds qui pouvaient échanger entre eux. Et avec 2005... on a dit il faut de l'égalité, alors il faut être tous pareils, donc comme vous êtes pareils, c'est comme les intersexes, l'égalité c'est une chance, on est tous pareils, mais non, on n'est pas tous pareils, on est tous différents, donc voilà l'intégration individuelle, et là ça a été bien pire, parce que mettre un enfant seul dans une classe ordinaire, en fait c'est une grave erreur qui a vraiment empiré la situation des sourds, et toutes les réponses qu'on a aujourd'hui sont absolument inadaptées.
Fabrice.
On continue sur le thème de l'histoire. Est-ce que tu peux aborder l'histoire des intersexes, en tout cas l'histoire récente des intersexes?
Vincent.
Aïe, il faut que j'aie une définition d'intersexe. Il y a des hommes, il y a des femmes et il y a des intersexes. C'est-à-dire qu'on a un corps qui n'est pas pleinement mâle, pas pleinement femelle, hein, pour quelque raison que ce soit, et tout ce que vous pouvez imaginer existe. Donc je vous en prie, fantasmez sur nos corps, allez-y. Ça nous fait du bien. Voilà, alors une fois qu'on a pris cette définition-là, un peu tout le monde est intersexe. C'est ce qu'on appelait autrefois les hermaphrodites, hein. Et la première nosographie médicale nous décrivant, c'était hermaphroditisme. Et puis en fait, c'était fun d'être hermaphrodite, parce qu'on valait cher, on pouvait baiser, on était dans les cirques, on était dans les cabarets. Et du coup, les médecins se sont dit, oh là là, on a fait une connerie en les nommant hermaphrodite. C'est super positif, il faut trouver un nom vachement plus péjoratif. Alors, au début du XXe siècle, ils ont dit « Waouh, on va les appeler intersexes, parce que ça, c'est tout pourri, et ils pourront pas être heureux d'être comme ça. » Et puis, ça a duré longtemps. Alors, dans les intersexes, ils ont quand même gardé la crème des intersexes, qui s'appelait les hermaphrodites, et puis les intersexes tout pourris, qu'ils appelaient les pseudo-hermaphrodites. Donc, ils ont commencé à créer deux catégories, et puis après, ils ont multiplié les catégories. Maintenant, il y en a une centaine. Mais on avance très, très vite. On oublie les camps de concentration avec les expériences sur nos corps, on avance. Et puis on arrive dans les années 90 où une personne intersexe lit un article médical, c'est une Américaine, elle lit un article médical sur les intersexes et elle se dit « Ouah, c'est moi, mais il raconte que des conneries ». Et donc il n'y avait pas Internet à ce moment-là, c'était en 1992. Et donc, elle écrit au journal de bioéthique qui avait écrit cet article tout pourri ce qu'elle pense, mais elle dit on est très nombreux à écrire et d'ailleurs on a créé une association. Et en fait, elle bluffe complètement, mais sauf qu'elle reçoit des centaines et des centaines de lettres et plein d'intersexes de langue anglophone qui lui écrivent. Et donc, c'est la première association, 1992, la première association qui est l'Association Intersexe d'Amérique du Nord. Et puis, c'est des gens un peu déjantés comme moi. Comme les gens qui ont été torturés dans l'enfance, donc ils commencent à menacer de mort les médecins, à aller les emmerder dans les hôpitaux. Enfin, c'est très, très violent et les médecins ont très, très, très peur. Et donc, les médecins organisent la résistance. Et à un moment donné, ils arrivent à convaincre un certain nombre d'intersexes, et là, les sourds, vous allez entendre, et les parents d'intersexes qui ont fait mutiler leurs enfants, et ils intègrent donc dans l'Association nord-américaine des intersexes des parents et des médecins. Et là, évidemment, ça donne la même chose qu'en France, chez les sourds. C'est les autres qui vont dicter notre vie et dire ce qui est bon ou pas pour nous. Donc, on nous revole notre propre autodétermination. Et ça se termine très, très mal. Le mouvement intersexe explose et on est quelques-uns arrivés, comme ça, en 2002, à dire « Non, mais c'est du tout n'importe quoi ». On était parti sur de bonnes bases et en plus il y en a marre de l'hégémonie nord-américaine. Donc nous on voit plus grand et donc on organise l'organisation intersexe internationale qui depuis ce jour est restée sur les bases fondamentales féministes, LGBT, révolutionnaires. Sur les identités, ouais, il y a plein d'identités intersexes. Alors il y a des corps intersexués. Des corps qui sont manifestement pas mâles ou femelles. Voilà. Ça, c'est des intersexués ou des intersexes avec un petit i. Et à l'intérieur de tout ça, donc ça, c'est tous ces corps, comme tu peux mettre tous les corps sourds, pour quelque raison que ce soit. Et à l'intérieur de ça, il y a des gens qui se vivent différemment. Donc il y a les intersexes avec un grand i, qui ont piqué la majuscule au sourd, sauf que c'est pas un grand S, c'est un grand i, des personnes comme moi. Il y a des gens qui sont d'une double culture, qui peuvent être à la fois femmes et intersexes, ou hommes et intersexes, suivant, voilà, ça peut être socialement, je suis une femme hétérosexuelle qui vit en couple avec un homme et qui a des enfants, mais dans le même temps, je sais que mon corps est intersexué et je vais de temps en temps dans la communauté intersexe parce que j'ai besoin d'elle. Donc on pourrait penser que c'est des personnes qui ont été implantées et puis qui parlent avec la langue des signes. Le parallèle, il marche à tous les coups.
Fabrice.
Est-ce que tu pourrais nous donner une définition précise de ce qu'est l'identité, Olivier ?
Olivier.
Le mot identité déjà interpelle parce qu'on est tous plus ou moins plusieurs choses. On n'a pas une seule et unique identité. Le milieu médical regarde le sourd non pas comme une personne mais uniquement... une personne ayant une déficience. Depuis longtemps, il est question de soins, de réparation, de retour à la norme, de normalisation, etc. Par contre, du côté de la communauté sourde, il n'est plus question de la question de l'oreille déficiente, mais il est question de la personne. Si on rencontre un sourd, on rencontre une personne. Bernard Mottès disait « La déficience auditive, c'est quelque chose de physique. Par contre, être sourd, c'est quelque chose de social. On devient sourd. On voit bien que là, on a deux regards complètement différents.
Fabrice.
Vincent, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ?
Vincent.
Je ne vais rien rajouter à ce qu'Olivier vient de dire, je vais juste changer sourd par intersexe et c'est exactement la même chose, quoi.
Fabrice.
Nous sommes des... On peut dire que nos corps sont tiraillés dans tous les sens par le monde médical, l'oreille des sourds qui est prise par le monde médical pour être réparée, le corps des intersexes également. Tu disais, Olivier, tout à l'heure que les médecins annoncent 180 000 implants dans le monde, personnes implantées dans le monde. Il y en a plus dans les pays du Nord. En France, on peut dire que 80% des enfants sourds aujourd'hui sont implantés. Mais quand on va dans le nord de l'Europe, c'est encore plus. C'est 98-99%.
Marie.
Donc moi, je me suis fait implanter, j'avais 21 ans, et en janvier 2007, pour cette oreille-là, en plein stage d'école infirmière en première année, je perds en 3 heures l'usage de l'oreille gauche, qui est la meilleure sur la droite, celle qui me permettait de téléphoner, tout ça. Donc comme j'étais dans une période où j'étais encore complètement dans le déni de ma surdité, tout ça, j'ai tout de suite demandé à avoir un implant cochléaire après avis du prothésiste qui me suit depuis l'âge de 7 ans, suite à une malformation de la cochlée congénitale. Donc ça devait arriver un jour, mais je ne pensais pas que ça allait être brutalement et jeune. Et du coup, l'implantation, je l'ai faite en 2007, en janvier pour celle-ci. Et quand j'ai repris ma deuxième année à l'école, au bout de 15 jours, celle-là m'a lâché en 5 minutes. En 5 minutes, j'ai tout perdu. Et donc, je me suis fait implanter en décembre 2007. Donc, en 11 mois d'écart, j'ai été implantée les deux. Et ça a été mon choix. Les opérations se sont bien passées. Sauf que pour celle-ci, j'ai mis 3 mois pour pouvoir reconduire ma voiture parce que j'avais un problème d'équilibre. Mais mon champ de vision bougeait en même temps que je marchais. C'est-à-dire que pour aller aux toilettes la nuit, je me prenais les murs. J'ai pas pu conduire pendant 3 mois. Donc j'ai dû retourner vivre chez mes parents parce que j'étais en coloc. Donc pour m'emmener, aller en cours. Donc ça a été un petit parcours où il a fallu que je fasse la rééducation vestibulaire, tout ça. Je me sens pas torturée par contre par rapport à ces opérations. Elles se sont bien passées. J'ai pas souffert. C'est juste désagréable au niveau de l'équilibre. Et donc là, je me suis fait explanter l'année dernière. Parce qu'en fait, pendant 7 ans, j'avais le bout de l'implant qui commençait à pousser sous la peau. Enfin, il me faisait mal. Je n'arrivais plus à dormir dessus. Je ne pouvais pas mettre les branches des lunettes dessus. Je ne pouvais pas écouter avec le casque la musique comme je voulais. Il fallait que je l'enlève après parce que ça me faisait mal. Mais après, on m'a posé la question, si tu n'avais pas eu mal, est-ce que tu te serais fait explanter quand même? Et là, j'ai répondu non, je ne l'aurais pas fait. Et voilà, je ne l'aurais pas fait, peut-être que je l'aurais fait plus tard, si, avec la construction de l'identité, tout ça, de savoir qui je suis, est-ce que je veux toujours continuer avec ça, ou est-ce que... Et je pense aussi que quand je l'ai fait, j'étais pas stable psychologiquement aussi, mais je connais des personnes, ou du moins j'ai lu des témoignages, on parlait du fameux groupe Facebook... de l'association ADPIC. Donc, un peu comme ils ont fait, comme ils font actuellement, c'est qu'il est en train de regrouper tous les témoignages de personnes implantées qui ont eu des galères. Donc, lui-même, le président, il a fait au moins 8-9 fois l'opération de l'implantation, ça ne marchait jamais. Donc, lui, on peut dire qu'il a été torturé, parce que, comme il dit, j'en ai souffert et tout. Donc c'est pour ça qu'il faut laisser vivre les gosses jusqu'à qu'ils fassent leur choix pour soit entendre ou pas du tout. S'ils veulent parler, ben, on va les amener pour parler à l'autophonie s'il faut. Mais d'imposer son choix à un gamin sourd tout de suite, enfin je parle des parents, je suis intimement convaincue, il faut les laisser faire leur chemin. C'est vraiment très frais pour moi. De commencer à me construire et qu'on me dise qu'il faut que je fasse un choix entre cette langue-là ou la LSF, non, je ne peux pas, j'ai besoin des deux.
Fabrice.
Marie est aussi la preuve que l'identité sourde n'est pas unique, il y en a plusieurs. On peut être sourd de différentes façons, tout comme pour les intersexes. Il n'y a pas forcément que les intersexes avec une minuscule, mais des intersexes avec un I majuscule qui va montrer la fierté d'être intersexe.
Vincent.
pour qu'on puisse comprendre pourquoi il y a tant de catégories et comment on peut ou pas gérer les chiffres, je vais vous donner un exemple très récent. On a fait la rencontre de Douarnenez, donc le journaliste de Libération fait 2 pages complètes sur les intersexes. Et puis les médecins français entendent et puis disent non, faut pas écouter ces fous-là, faut pas écouter Guillaume, ces chiffres ils sont faux, c'est n'importe quoi. Lui, il dit une naissance sur 2000, mais en fait, c'est très très rare. Il y en a qu'un ou deux par an qui naissent, au maximum 200. Et là, Libé est vachement emmerdé. Il ne croit pas Guillaume, il ne croit pas les médecins, mais ils se disent qui c'est qui a raison. Et du coup, moi, j'ai un mal fou à expliquer. Et au bout d'un moment, ça fait tilt. Ça, c'est juste le jour où ça doit être mis sous presse, hein, à quelques heures de la mise sous presse. Donc, l'article n'allait pas paraître et les médecins allaient gagner. Et à un moment donné, je dis aux journalistes au téléphone, c'est comme si on dit que les Français mangent 10 kilos de pâtes et que d'autres disent non, ils en mangent, je sais pas, 20 kilos. Et c'est quoi la différence? Et ceux qui disent 10 kilos, ils comptent que les spaghettis. Et les autres, ils comptent tous les coquillettes, les tortellini, les machins, les trucs, les chouettes. Et quand ça t'arrange, quand t'es médecin et que ça t'arrange, tu dis « Ouh là là, les sourds, c'est super rare !» Parce qu'ils comptent en fait que les sourds complets constatés à la naissance. Et donc, nous, ils vont compter le super monstre rarissime. Tu vois, celui qu'on ne peut pas voir en regardant entre ses jambes, on ne peut pas voir en voyant ses chromosomes, il a un mélange d'ovaires et de testicules, et du coup, là, on ne sait vraiment pas. Et donc, pour dire que c'est super rare, on va prendre juste cet exemple-là. Mais à un moment donné, ils ont besoin de fric, ces gens-là. Ils ont besoin de les vendre, leur putain d'implant cochléaire ou leurs hormones. Et donc là, ils vont donner des chiffres complètement hallucinants. Ils vont mettre tout là. Alors, ils vont, pour les sourds, ils vont mettre les vieux dedans. Hein. Les vieux, tout d'un coup, ils sont tous sourds. Ou, donc, les intersexes, ils vont nous mettre les femmes qui ont l'utérus renversé ou les femmes à 2 utérus. Ou ils vont tout mettre dedans, là, tout mettre, tout charger parce que ça rapporte du fric. Donc, cette histoire de chiffres, elle est fondamentalement politique. C'est que c'est l'oppresseur qui choisit quand il veut mettre dedans. Et il mettra dedans ce qu'il veut au moment où il veut. Des fois, il mettra beaucoup et des fois, il mettra très peu. C'est juste ça. Et donc, les chiffres, il faut les utiliser, mais il faut les étudier, les utiliser pour dénoncer la manipulation de nos bourreaux.
Catherine.
Enfin, moi, j'ai un petit garçon sourd. Je suis présidente de l'Association nationale de parents d'enfants sourds. Et... dans ma tête, à moi, c'est le problème de la norme. Je ne sais plus lequel de vous a dit au départ, on est tous extrêmement différents. On est tous... l'identité, ce n'est pas une seule chose. Moi, quand j'ai appris la sourdité de mon enfant, je me suis dit, c'est avant tout une petite personne qui a besoin de s'exprimer, donc qui a besoin d'une langue, donc la langue des signes. Les médecins, c'est vrai, les ministères nous parlent de chiffres parce qu'ils adorent les chiffres, ça leur fait très plaisir. À chaque fois, ils nous demandent combien d'enfants sourds. Parce que moi, je me bats pour les classes bilingues et on nous demande toujours, ça concerne combien d'enfants? Mais on s'en fout parce qu'un seul enfant, il a le droit à l'éducation comme n'importe quel autre enfant de France. Or, au jour d'aujourd'hui, en France, liberté, égalité, fraternité, c'est ni pour les enfants sourds, ni pour les enfants intersexes. Nous, ce sont des enfants qui sont hors citoyenneté parce qu'on ne leur reconnaît pas à une très grande majorité le droit à l'enseignement, le droit à la langue, le droit à l'éducation, le droit au savoir, alors qu'on est en France au 21e siècle. Moi, ça fait un an que je suis présidente, ça fait un an que je reçois des appels de parents quotidiennement en larmes parce que l'implant ne marche pas, parce qu'ils regrettent, parce que leur enfant n'a pas d'école, parce que pour X raisons. Oui, le problème, c'est la personne qui paye l'argent, qui influence les parents, qui ne donne pas l'information, qui préfère financer l'opération des enfants qui coûte extrêmement cher, surtout que maintenant on implante des deux côtés les bébés, de plus tôt possible, au lieu de donner l'argent pour l'éducation, pour l'information, pour la culture, etc., etc. Les enfants sourds ne sont pas hors normes. Ils sont tels qu'ils sont, ils ont le droit de l'être. Et je pense que ça, c'est la première chose qu'il faut dire aux parents. Votre enfant, il est normal. Il a une différence, mais il y en a plein d'autres des différences. Donc voilà, enfin, c'était juste ce commentaire-là par rapport à ce que dit Vincent. Et effectivement, pas se tromper de cible, ensemble contre l'oppresseur qui est le monde médical, le monde de l'argent, qui a tout intérêt à ce qu'on se divise, qui a tout intérêt à ce qu'on soit isolé, qui a tout intérêt à faire de nos enfants, à faire de vous, des cobayes.
Vincent.
Moi, ma seule solution, c'est la révolution. Et c'est pas juste pour les sourds et les intersexes. Il faut détruire ce monde de merde et ce monde capitaliste. Mais ce que je veux dire, c'est déjà ce qu'on fait là, de la visibilité, arrive à comprendre qu'on est victime de torture, les sourds comme les intersexes. Et donc dénoncer ces tortures, continuer à les dénoncer et arriver à accepter la fierté d'être ce qu'on est. La fierté, c'est être légitime à être au monde. On est légitime à être au monde. On est dans une seule et même lutte contre un oppresseur qui s'appelle le biopouvoir. Et il faut qu'on s'organise véritablement pour avancer ensemble. On a des procès en cours, je souhaite, même si moi je ne peux pas faire procès, je suis trop vieille, donc j'ai plus le droit de faire procès. Tu sais, à un moment donné, tu es torturé pendant toute ton enfance, et puis la justice a dit « Ah non, c'est trop tard !» Et moi, je souhaite convaincre les avocats de faire témoigner des sourds, parce que c'est la même torture. Je souhaite que les sourds et les intersexes qui vont en procès aillent ensemble, travaillent ensemble, parce que c'est les mêmes dossiers, c'est les mêmes lois, c'est les mêmes choses. Donc là-dessus, nous, on a défriché un peu. Peut-être que vous avez défriché, mettre en commun. Et à un moment donné, c'est qu'on est victime, mais qu'on arrête la posture victimisante. Putain, merde, il y en a marre. C'est de la merde. À un moment donné, il y a un prédateur qui, parce qu'il avait le savoir, le fric et le pouvoir, s'est permis de mentir à tes parents, s'est permis de massacrer ton corps, t'as cassé ta sexualité, t'as cassé ta culture pour la culture sourde, t'as cassé à éradiquer notre culture. On en est au même point systématiquement pendant la grossesse. Si on voit un fœtus qui est potentiellement sourd ou intersexe, il y a une injonction d'avortement pour les mères, et c'est ça qu'il faut dénoncer. Et il faut y aller en colère. Notre colère, elle est légitime, et nous sommes beaux, et nous sommes fiers, et nous sommes bien meilleurs que toutes ces merdes.